Vous écoutez France Culture.
Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave.
Aujourd'hui, Julia Kristeva, la psychanalyse et le besoin de croire.
Pour ceux qui s'intéressent à la psychanalyse, on sait peut-être que dans son fameux écrit sur les actes obsédants, puis ensuite dans l'avenir d'une illusion, Freud a essayé de montrer comme la religion relevait en fin de compte d'une activité de sublimation illusoire et d'une certaine façon était en fin de compte assez proche de ce que l'on appelle la névrose obsessionnelle. C'est une thèse qui d'une certaine manière a été acquise, a été reçue en tant que telle pendant des décennies et c'est précisément tout l'intérêt de l'ouvrage de Julia Kristeva aujourd'hui aux éditions Bayard, dans cet incroyable besoin de croire, de se réinterroger sur cette position freudienne et de se poser des questions sur cette volonté de croyance ou cet élan, ce désir de croyance qui est inscrit le plus profondément dans le cœur de tout homme et où elle plaide d'une part pour la reconnaissance de ce désir et en même temps pour un examen critique qui fait que l'on comprenne pourquoi ce désir, vers quoi il tend, ce qu'il dit de l'humanité et d'une certaine manière, comment il peut être assumé, mais il peut être assumé en pleine lucidité.
Pour ce qui est de Freud, l'opinion est généralement retenue l'idée que pour Freud, la religion est une illusion. Et il développe en effet, comme homme de lumière, cette conception des choses en s'insurgeant en effet très violemment contre l'obscurantisme, contre un certain nombre de vérités non scientifiques que la religion véhicule et qui conduisent à la névrose, à une censure sur le corps et à la limite à une incapacité de développer la libre pensée, la question du doute et la possibilité même d'interroger les dogmes. Tout ça est présent chez Freud, mais quand on regarde de près aussi bien ce texte que des lettres au pasteur Pfister ou la correspondance avec Romain Rolland, on se rend compte que sa position est beaucoup plus subtile. D'une part, au niveau de l'évolution de la vie psychique de l'enfant, il insiste beaucoup sur ce qu'il appelle l'attente croyante qu'on va retrouver aussi bien dans le sentiment océanique de la dépendance entre mère et enfant que dans des figures paternelles sur lesquelles on n'insiste pas beaucoup mais qui sont antérieures au père édipien et qui permettent de comprendre la vie psychique de manière beaucoup plus fondamentale comme étayée par ce besoin de croire. Et je me suis un peu appuyée sur ces moments importants de la pensée de Freud pour les développer à partir de mon expérience personnelle en tant qu'analyste et en tant que, on va dire, femme, écrivain, intellectuelle, citoyenne. Ce qui m'a conduite à ces questions, c'est non seulement ce que Freud nous a légué, mais ce qu'on voit dans l'actualité et face aux fameux heurts des religions, beaucoup de patients se posent des questions qui les conduisent pas forcément dans une religion, mais qui les conduisent à se poser des questions sur à quoi ils croient, qu'est-ce que croire, peut-on ne pas croire, amour et croyance, Et même s'il ne se pose pas les questions, l'analyste se demande qu'est-ce qui étaye, qu'est-ce qui soutient toute la construction que l'adulte va produire et qui, elle, va le conduire à la liberté, qu'elle soit sexuelle, idéologique ou politique. Donc tous ces fondements de la vie psychique qui passent par le besoin de croire m'ont apparu en friche, et d'ailleurs nous sommes un certain nombre parmi les analystes aujourd'hui à faire des colloques, des publications à cet égard. J'ai essayé de le faire de ma façon, j'espère, plus ouverte au grand public.
Avant d'aller plus loin, Julia Kristeva, est-ce qu'il ne serait pas bon de faire une distinction entre ce qu'il est convenu d'appeler la religion d'une part et le besoin de croire de l'autre? Parce que je pense évidemment au fameux texte de Freud sur les actes obsédants, et je dirais à une certaine pratique de la religion, une certaine pratique du rite. Enfin, il suffit de penser à ce que dans ma jeunesse on appelait les grenouilles de Bénitier, pour me dire que c'est un texte quand même qui s'applique effectivement à beaucoup de gens.
Tout à fait. Oui, Freud a insisté sur l'obsessionnalité de la ritualisation, sur la névrose, sur la censure du corps, la fermeture du doute et du questionnement, tous ces effets négatifs sur lesquels les Lumières, et Freud était un homme de lumière, ont focalisé leurs attaques, et ils ont raison de le faire. C'est quelque chose qui est encore vivant, et il ne s'agit pas du tout, quand des gens comme moi s'intéressent à la religion, d'oublier cet aspect des choses. Mais il a aussi montré qu'il y a un étayage qui est antérieur au système de croyance, vous venez d'appeler tout à l'heure les religions, et que j'appelle, moi, un besoin pré-religieux de croire. Et qui se trouve justement dans la constitution de la capacité même de parler de l'être humain. Homo sapiens, c'est un homo religiosis, avant d'être homo economicus et homo politicus. Et c'est cette coprésence de paroles et croyances qui m'a paru extrêmement intéressante à interroger. Quand on voit l'évolution de l'enfant, si l'enfant ne croit pas et s'il n'est pas cru, il y a quelque chose de lacunaire dans sa construction psychique qui l'empêche d'accéder au désir de communiquer. Donc, ces subtilités-là que j'essaye un peu de décortiquer dans mon texte.
Alors, précisément, en vous écoutant, Julia Kristeva, je pense quand même à la correspondance à laquelle vous avez fait allusion avec Romain Rolland, dans laquelle on sait que Freud, à un moment, dit qu'il est aussi fermé à la mystique qu'à la musique. Bon, et là, on a l'impression, d'une certaine manière, qu'il y a presque d'a priori idéologique ou de constitution personnelle de Freud, je n'en sais rien. Et est-ce que, précisément, aujourd'hui, on n'est pas obligé de le reprendre d'une manière différente?
Absolument. Je trouve que Freud procède, je viens de le dire, comme homme de lumière, mais aussi avec une extraordinaire honnêteté. Et quand il dit qu'il est fermé à ce besoin de croire, comme il est fermé à la mystique ou à la musique, je crois qu'il dit quelque chose de sa constitution, avec énormément de franchise, comme un regret et comme un aveu de limite, qu'on peut interpréter aujourd'hui comme une difficulté vis-à-vis du continent noir, c'est-à-dire ce qu'il appelle le continent noir, le maternel, le féminin. Ce n'est pas qu'il n'a pas levé le sparadrap sur ce continent noir, puisque en investiguant l'hystérie, il nous a permis de voir beaucoup et très loin, aussi bien du côté de l'hystérie féminine que de l'hystérie masculine, et donc du féminin, de l'homme et de la femme. Mais il reste là quelque chose, il est resté quelque chose de non analysé, et je pense qu'une grande partie du post-freudisme s'est bâti sur l'intérêt concernant les relations précoces mère-enfant. Que ce soit chez Melanie Klein, chez Winnicott, Bion, la psychanalyse française aujourd'hui, les différences que nous faisons entre l'amante et la mère, les relations précoces, encore une fois, mère-enfant, etc., vont dans ce sens. Et je pense que c'est quelque chose d'essentiel que Freud a désigné presque comme un testament. Allez voir de ce côté-là. Et en même temps, je reprends ce qu'on appelle l'apophtegme de Freud. Vous savez que sa phrase, comme ça, qui résume un peu la démarche psychanalytique, est la suivante. Là où c'était, je dois advenir. Là où c'était, c'est-à-dire l'inconscient, mais aussi la mémoire ancestrale, la tradition. Et c'est un travail impossible. C'est comme dessécher le jus d'ersaie, dit-il en conclusion. Et en même temps, il fait, en parlant de la mystique, il fait presque un rapprochement entre le travail du mystique et le travail de l'analyste. Le mystique est celui qui fait advenir le « ça » dans le « moi ». C'est-à-dire que les couches profondes, ce qui est irreprésentable, ce qui est sensible, ce qui est pulsionnel, pour employer le langage de la Société psychanalytique de Paris, engloutit le « moi », envahit le « moi ». Ce sentiment océanique, par exemple, pour prendre une autre métaphore, que l'enfant éprouve dans les bras de sa mère et qui à la fois le contient mais aussi le noie, bien, le mystique va le faire advenir dans le moi. Le moi est en contact avec ces couches profondes innommables, d'où l'extase, d'où la perte qu'on trouve de Saint-Jean de la Croix à Eckhart ou Sainte-Thérèse, si on veut voyager à travers les siècles. Eh bien, Freud va dire quelque chose d'assez troublant. Il se produit presque la même chose à l'analyse, mais c'est le moi qui intervient dans le ça. Autrement dit, la rencontre entre le moi et le ça se fait, mais sous la commande du moi, en psychanalyse. Autrement dit, je plonge, je retrouve mes archaïsmes, mon côté infantile, mais au lieu de me laisser engloutir, je les élucide, ces rencontres, ces archaïsmes. Donc il y a plus de lucidité, pense-t-il, du côté de la psychanalyse, parce qu'il va y avoir de l'interprétation, parce qu'il va y avoir un contact avec l'analyste, parce qu'il va y avoir un travail de la raison, de la parole, et moins de régression. Alors, ça se discute, parce qu'on peut dire que quelqu'un comme Sainte-Thérèse, sur laquelle je travaille en ce moment, a beaucoup d'élucidation de ses états de régression, quand elle écrit son château intérieur ou son chemin de perfection. Mais on peut dire aussi, et je me place du côté de Freud, que l'interprétation des régressions du point de vue de la sexualité, par exemple, est une nouveauté qu'il a introduite et qui renforce le « moi » dans ses rencontres avec les régressions. Vous voyez, on est en bord à bord, là, dans les derniers Freud, entre mystique et psychanalyse, avec cette différence que du côté de la psychanalyse, le « moi » est plus fort, pense-t-il, espère-t-il, et encore le jus d'ersaie est loin d'être desséché, tandis que du côté du mystique, c'est plutôt une régression, une noyade, et le terme de la baignade, en effet, est très, très fréquent dans ces parages, qui s'impose.
Est-ce que tout de même il n'y a pas, je dirais, un rapport profond de la psychanalyse, de l'œuvre de Freud principalement, avec la tradition judaïque, avec la tradition chrétienne? Je veux dire que dans l'expérience mystique, vous faisiez allusion à Sainte Thérèse d'Avila, vous faisiez aussi allusion à Maître Eckhart, on voit très bien comment l'idée est quand même celle d'une union au divin. Et qu'on se noie, effectivement, mais que, bon, lorsque Sainte Thérèse d'Avila, dans son autobiographie, rappelle la transverbération, ce qu'il a préparé, il y a quand même une subsistance du moi. Alors que je pense à ce que lui opposait Romain Rolland, à Freud, c'est-à-dire l'Inde, et il travaillait sur Ramakrishna. Le sentiment océanique, c'est effectivement la vision de Ramakrishna, de la déesse Kali, de cette espèce de fracas de lumière et de disparition totale du moi. Et on a l'impression là-dessus que Freud, et ceux qui l'ont suivi d'ailleurs, sont beaucoup plus proches de la tradition occidentale.
Certainement. Mais Freud n'ignore pas la fragmentation totale. Simplement, il va la référer probablement à des états plus archaïques du narcissisme infantile et quasiment une expérience de limite, d'état limite, sinon de voisinage avec la psychose. Il en parle d'ailleurs à Romain Rolland à partir du sentiment océanique qu'on évoquait tout à l'heure, où l'enfant est dans les bras de la mère, où il perd ses contours et en même temps il est soutenu. Et en effet, on trouve ces états-là dans les expériences mystiques, en particulier dans les spiritualités orientales, mais aussi dans la tradition judéo-chrétienne. Si vous relisez Thérèse d'Avila, on lui a souvent reproché, quand elle parle de ses extases, il y a des moments où la suspension des puissances, comme elle dit, l'élimination de tout contrôle de l'entendement, de la volonté, etc., de la mémoire, vont dans le sens que vous dites. Simplement, ce qu'il y a dans notre tradition judéo-chrétienne, c'est qu'on peut émerger de tout ça et on encourage l'émergence. Et l'émergence, c'est la constitution du sujet qui fait un avec un Dieu un. Et ça, c'est quelque chose qui constitue le sujet occidental, à la fois dans une dialectique de perte, mais aussi de reconstruction. Et on voit dans l'itinéraire de ces mystiques, la reconstitution pas à pas, station par station, demeure par demeure, dira Thérèse dans son château intérieur, de cette dialectique-là. Alors, ce qui se passe dans la pensée de Freud, c'est qu'il n'insiste pas trop sur la perte, qui lui paraît en effet mettre en danger l'autonomie du sujet. Il insiste davantage sur comment se récupérer de tout cela, mais sans forcément ignorer l'élément jouissif de cette expérience spirituelle. Et là, j'ai insisté sur un point qu'on n'a pas beaucoup, je crois, mis en lumière dans les théories analytiques, c'est ce que Freud appelle dans le moi et le ça, le père de la préhistoire individuelle. Quand je dis ce terme, qui n'est abordé que très rapidement lorsque Freud parle de l'identification primaire, quand je dis ce terme, les gens pensent au père de la horde primitive qui est tué par les frères pour que le socius se ferme et se forme. Ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Freud parle d'une identification très précoce, primaire, dit-il, de l'enfant avec une instance paternelle qui n'est pas encore le père de l'Édipe, qui va dire non, qui va imposer des règles et qui va aller du côté du père sévère, du dieu de la loi. C'est un père aimant qui est la première occurrence de la tiercité entre la mère et l'enfant et qui empêche la dyade mère-enfant de sombrer dans l'agglutissement, qui va reconnaître l'enfant, qui va être en quelque sorte le premier pôle d'amour et de reconnaissance réciproque et qui va en ce sens être l'appui de la croyance avant que je puisse savoir ce que je crois. Nous savons tous combien l'enfant dans l'évolution va passer à un stade où il va éclater de questions, il va se poser toutes sortes de problèmes, il va demander qu'est-ce que c'est ceci, qu'est-ce que c'est cela, etc. Mais pour qu'il puisse adresser ces questions, il faut qu'il se sente étayé par quelqu'un qui croit en lui, dans lequel il croit. Et c'est cette figure-là de la première identification que Freud appelle le père de la préhistoire et qui est le père aimant. Je pense que c'est là-dessus que se fonde le Dieu chrétien qui nous a aimés et toutes les églises sont pleines d'évocations concernant cette instance-là, c'est la gloire et la force du christianisme, y compris aujourd'hui, devant un délabrement de la fonction paternelle, l'absence des pères, etc. Les jeunes des JMJ sont tout à fait ravis d'entendre cette parole-là. Et dans l'histoire de la vie psychique, cette instance-là est souvent carencée. C'est aussi ce que le psychanalyste fait, tout simplement en étant là, en assurant le cadre, en écoutant, en étant dans une compréhension et dans un investissement de son patient. Et je reviens sur ce thème d'investissement parce que Freud dit l'enfant investit le père et le père investit l'enfant dans une attente croyante. Or, si vous remontez au terme sanskrit d'investir, c'est le terme de cred de la racine cred strat, qui veut dire j'investis ma force vitale en attente de récompense. On me promet l'immortalité ou ce qu'on veut. Eh bien, cet investissement est un investissement psychique qui nous intéresse beaucoup, nous analystes. Comment être capable d'investir quelque chose ou quelqu'un avant que ça devienne une valeur ou un objet de connaissance. Et c'est ces fondements-là, très archaïques, de la constitution de la vie psychique que j'appelle, moi, un besoin pré-religieux de croire.
Puisque vous faites allusion à la racine indo-européenne, cred, Julia Kristeva, est-ce qu'il ne faut pas se rappeler en même temps que cred, ça a donné le crédit ?
Tout à fait.
Benveniste le rappelle bien, ça a donné la créance.
Tout à fait.
Et comment est-ce qu'on fait crédit à ce père, d'une certaine manière ? Et à la limite, est-ce qu'on n'a pas une créance sur lui ou est-ce qu'il n'a pas une créance sur nous ? Est-ce que ce n'est
Tout
pas aussi le problème qui peut se poser ?
C'est cet investissement-là qui, en effet, crée une dette par rapport à la paternité, d'où l'importance de cette figure d'investissement primordial qui m'oblige parce que je l'oblige. Et c'est peut-être la racine du lien social, mais il ne faut pas oublier qu'il est précédé par ce sentiment océanique d'appartenance au contenant maternel.
Vous faisiez allusion tout à l'heure à la liaison implicite, si l'on peut dire, entre ce qui est de l'ordre de la mystique et ce qui est de l'ordre du continent noir. Est-ce que là, nous ne trouverions pas des pistes pour réfléchir à ce qui... Enfin, moi, je suis d'une région dans laquelle on est généralement agnostique rieur, c'est-à-dire de dire toujours, ce sont les bonnes femmes qui vont à l'église. Et je veux dire qu'on voit bien comment, généralement, et pratiquement dans toutes les cultures, il y a un lien beaucoup plus fort du féminin au religieux que du masculin généralement. Est-ce que ce n'est pas de ce côté-là qu'il faudrait chercher ?
Je pense que notre civilisation sécularisée a fait un grand pas en avant du côté du féminin en libérant le désir des femmes, le désir de savoir, le désir de créer des liens. Par contre, on a oublié la vocation, et je pèse mes mots, maternelle, et qui va dans la direction que vous soulignez, et qui conduit les femmes à l'Église ou dans d'autres recherches de spiritualité. C'est-à-dire ce lien ancien, pré-religieux, mais aussi translinguistique, sensoriel, à l'enfant. Accouchement, soins précoces, fusion avec quelqu'un qui n'est pas encore un autre, qui vient de moi, qui n'est pas moi, l'élaboration de ces dépendances-indépendances archaïques. Et là-dessus, nous n'avons pas de discours culturel. Je dis pourquoi ? Parce que nous avons la Vierge Marie, qui est l'exemple de cette mère contenante et sacrifiée, mais nous n'avons pas de discours laïque là-dessus. Parce que là, on est dans une religion, je veux dire, une région, qui n'est pas forcément une religion, du sensoriel, du pré-verbal ou du transverbal. On est dans des impondérables, ce n'est pas forcément des concepts, ce n'est pas des interrogations, ça se passe beaucoup au niveau des pulsions et des sensations. Mais comme disait Cézanne, je m'intéresse aux racines de l'être, aux sources de l'impalpable sensation. Et ces régions-là, c'est l'art qui les célèbre aujourd'hui, c'est l'art qui le met au grand jour. Il y a beaucoup de femmes dans les églises, mais il y a beaucoup aussi dans les musées.
au-delà de ce que vous dites sur la maternité, Julia Kristeva, est-ce qu'il ne conviendrait pas, lorsqu'on s'intéresse au phénomène religieux, lorsque je dis religieux, en réalité, en vous interrogeant, c'est le mot mystique que j'ai dans la tête. Mmh. Est-ce qu'il ne conviendrait pas de s'interroger sur la féminité en tant que telle ? Mmh. C'est-à-dire, finalement, de redécouvrir le fameux 20e séminaire de Lacan. Mmh. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas quand même dans la mystique quelque chose qui nous dit une vérité de la sexualité féminine, ou est-ce que la sexualité féminine ne nous éclaire pas sur le phénomène mystique ?
Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pourquoi j'ai fait ce triptyque qui s'appelle Le génie féminin, où j'essayais de sortir du féminisme de masse, qui est une revendication d'émancipation sociale, pour parler de l'individu féminin et de sa génialité, c'est-à-dire son exceptionnalité. Et j'ai insisté beaucoup, pour rejoindre le domaine psychanalytique, sur une sorte de double articulation de la sexualité féminine. Une très forte dépendance vis-à-vis du contenant maternel, ce que j'appelle l'Œdipe prime. La relation de la fille à la mère est à la fois d'adhésion, d'érotisation extrême, de dépendance, et en même temps de grande violence. Mais ça reste refoulé parce que ce sur quoi met l'accent la société, c'est ce que j'appelle l'Œdipe bis, c'est-à-dire l'identification de la fille au père. Je vais aller du côté de la loi, je vais aller du côté du savoir, de l'interrogation, je vais devenir un être social, et tant mieux. Mais chez chaque femme, il y a les deux aspects. Et si on refoule le premier, on est très facilement déçu par le jeu social. Et la femme se sent la paria de ce jeu social. Ou alors, elle a le choix de devenir une sorte de virago, femme maîtresse. Beaucoup réussissent, à quel prix, d'autres non. Mais il y a toujours un sentiment, même si on réussit, d'être étrangère à ce monde-là. Et ce que Hegel va appeler éternelle ironie de la communauté. Et pour recoller les deux bords, l'Œdipe prime et l'Œdipe bis, il faut un véritable travail analytique, pour celles qui ne sont pas croyantes, pour essayer de faire un va-et-vient permanent entre ces deux morceaux-là, ces deux lambeaux de la psyché féminine. Si on ne le fait pas, on est davantage victime de dépression parce que le continent maternel reste refoulé et je m'exile en lui, mais ce n'est pas reconnu et je boude. Ou alors, on est happé par des spiritualités qui parlent de ça, mais qui sont à l'extérieur du champ social.
Et à plusieurs reprises, Julia Kristeva, vous vous êtes servi du mot génie ou du mot génialité. Bon, alors, j'entends bien qu'évidemment, ce n'est pas le génie romantique tel que nous l'avons connu. Apparemment, vous revenez à un sens beaucoup plus ancien, beaucoup plus fondamental.
De Genius, de Daimon.
Mais en même temps, ne faut-il pas se rappeler que la racine indo-européenne de génie, le gen, c'est ce qui a aussi donné le genos, c'est-à-dire qu'on est du point de vue justement de l'engendrement. Et l'engendrement lui-même, finalement, a la même racine. C'est-à-dire, est-ce que le génie n'est pas quelque chose qui est ancré quand même dans la quelque part du côté de la maternité, finalement.
Écoutez, pour moi, le génie, si j'ai maintenu ce terme, c'est un peu de manière polémique pour attirer l'attention sur l'exceptionnalité, sur la singularité. Parfois, je dis à mes amis féministes, moi, je ne suis pas féministe, je suis scotiste. Et ça renvoie à Dan Scott, que vous connaissez bien, ce moine qui est mort en 1308 et qui disait que ce qu'il y a de vrai, ce n'est pas les idées générales, je simplifie, ni la matière opaque, mais l'eceitas, la singularité, cet homme-ci, cette femme-là. Et c'était une manière d'appeler...
Si je me rappelle bien, la fameuse différence entre le quod et le quid.
Voilà, tout à fait. Chez Anne Arendt, ça peut prendre pages et des pages là-dessus. Mais c'est que l'être lui-même est singulier. Donc, il y a de la singularité dans l'ontologique. Bon, mais pour en revenir à la naissance... C'est quelque chose qui me paraît passionnant dans le monde moderne où, pour chercher la réalisation de cette féminité qui, on vient de le dire en répondant à votre question antérieure, occulté par la poussée vers la performance phallique ou sociale, qu'est-ce qu'elles font les femmes ? Quand elles ne se tournent pas vers des formes de religiosité diverses et souvent qui obscurcissent leur mental et leur désir de savoir, les ramènent à certaines formes de régression, ben elles sont addictées à procréer. Il y a une espèce de ruée vers la maternité, mais une maternité qui n'est pas éclairée. Elles veulent accoucher, une espèce c'est même pas, comme on le dit souvent, un instinct, c'est un besoin d'accomplir la relation narcissique à un objet qui d'ailleurs va être parfois sacrifié sous la forme de congélation ou de sacs de plastique. Mais il aura existé. C'est quelque chose d'un effet très démoniaque, d'avoir un autre que je maîtrise, avec lequel je suis en osmose et en même temps que je dénie. C'est quelque chose de tragique pour ces femmes-là, parce que la pensée de la maternité, on le voit encore une fois, est lacunaire, absente dans notre culture. Mais si nous essayons, en tant que psychanalystes ou philosophes, de réfléchir là-dessus, c'est un grand service qu'on va apporter à la civilisation, parce qu'on sera sur un thème fondamental qui est la naissance comme liberté. Nous savons très facilement et peut-être parfois trop facilement, qu'on a identifié la liberté avec la révolte. Je suis libre si je vous dis, Jean-Michel Cazenave, je ne réponds pas à vos questions, on va faire la révolution dans la rue et on est dans la transgression. Bien, contre cette liberté transgression, Kant, dans le contexte de la Révolution française où la liberté transgression a conduit aussi à beaucoup de crimes, dit la liberté, et je résume encore une fois schématiquement, ce n'est pas la contestation, c'est l'initiation. C'est-à-dire quand je commence, c'est le commencement, c'est l'auto-commencement et tout commencement, c'est l'initiative. Heidegger va le reprendre en disant, bon, il y a ça, mais il y a aussi la liberté rencontre. Et dans notre tradition judéo-chrétienne que vous avez évoquée, la liberté est la rencontre avec autrui qui conduit à mon épanouissement, mais aussi l'épanouissement de l'autre, avec certaines contraintes qui me sont données par l'existence même de cet autre. Elle est donc modulée. Mais la liberté comme naissance et comme rencontre avec autrui, quelle année le commencement, quelle année le prémisse ontologique. Et c'est Hannah Arendt qui, en relisant Saint-Augustin, va nous donner la réponse. C'est la naissance. C'est le fait que nous naissons libres et éphémères. Et donc la mère, la femme, se trouve à un point angulaire de la civilisation, puisque jusqu'au nouvel ordre, les enfants sortent de l'utérus de la femme et le moment de la naissance est crucial, bien sûr pour le père aussi, mais physiquement, existentiellement, mobilise la mère. Et donc, les clés de la liberté comme commencement et rencontre avec l'autre, c'est de ce côté-là, du féminin maternel. Et alors, je reviens au deuxième aspect de la question, est-ce que c'est seulement une génération au sens physiologique ? Pas nécessairement. On arrive, encore une fois, dans ce monde sécularisé, et beaucoup de femmes me le disent dans des débats, je ne veux pas avoir d'enfant. Ma liberté consiste à ne pas vouloir. Et on commence à entendre cela. Pas seulement, ça peut l'être, un déni de la maternité, mais ça peut être aussi libre choix. Et c'est très difficile de faire le tri entre névrose qui dénie et liberté. Mais on peut très bien comprendre aussi que l'infirmière qui soigne, l'instit qui se dévoue à ses enfants, l'épouse qui est en situation de soins permanents avec l'époux, sont dans des situations de maternité symbolique. Et c'est cette dimension-là que nous devons développer aussi et qui n'est pas prise en compte quand on parle de parité performante, agressive et dominante.
je pense à Saint-Jean de la Croix. Mm-hmm. La manière dont Saint-Jean de la Croix se parle au féminin, finalement, oui, que ce soit dans la vie flamme d'amour ou dans le cantique spirituel, vis-à-vis de Dieu. Et d'une certaine manière, on a l'impression que, je dirais, on touche, et là on trouve l'envers, de ce qui est souvent un fantasme masculin. Mmh. C'est-à-dire, pourvu qu'il n'y ait rien de féminin en moi. Mmh. Bon, qui est là aussi un fantasme très culturellement construit. Et on a l'impression que, justement, pour s'ouvrir à quelque chose qui est de l'ordre du croire, on a besoin de cette bisexualité psychique.
En tout cas, on a besoin d'une capacité de régression qui nous conduit au père aimant et au sentiment océanique, mais pas seulement, pour aller vite, on va dire cela. Et l'éducation machiste, virile, qui n'est pas seulement un apanage de l'Occident, on le voit dans d'autres cultures aussi, l'homme guerrier, l'homme performant, etc., a tendance à refouler cette dimension-là. Et les hommes en ont peur d'être, parce que ça renvoie à l'homosexualité masculine, à la passivité, à être réduit à des femmes, femmelettes, et tout ce que vous voulez. Et du côté féminin, c'est vrai aussi que la bisexualité psychique est revendiquée presque par des mystiques femmes. Je vous parlais de Sainte Thérèse d'Avila, et elle s'adresse à ses filles en disant « Soyez hommes, mes filles », ce qui ne veut pas dire qu'elle n'était pas très ouverte, fémininement parlant, à recevoir...